Chapitre 7 Où Rouletabille part en expédition sous le lit. Rouletabille, ayant poussé la porte de la chambre jaune, s'arrêta sur le seuil, disant avec une émotion que je ne devais comprendre que plus tard, « Oh, le parfum de la dame en noir !» La chambre était obscure. Le père Jacques voulut ouvrir les volets, mais Rouletabille l'arrêta. « Est-ce que, dit-il, le drame s'est passé en pleine obscurité ?»« Non, jeune homme, je ne pense point. Mamselle tenait beaucoup à avoir une veilleuse sur sa table, et c'est moi qui la lui allumais tous les soirs avant qu'elle aille se coucher. J'étais quasi sa femme de chambre, quoi, quand venait le soir. La vraie femme de chambre n'habite guère que le matin. Mamselle travaille si tard la nuit. » « Et où était cette table que supportait la veilleuse ? Loin du lit ? Oui, loin du lit. Pouvez-vous maintenant allumer la veilleuse ? La veilleuse est brisée et l'huile s'en est répandue quand la table est tombée. Du reste, tout est resté dans le même élan. Étage, j'ai qu'à ouvrir les volets et vous allez voir. Attendez !» Rouletabille, rentrant dans le laboratoire, alla fermer les volets des deux fenêtres et la porte du vestibule. Quand nous fûmes dans la nuit noire, il alluma une allumette bougie, la donna au père Jacques, dit à celui-ci de se diriger vers son allumette, vers le milieu de la chambre jaune, à l'endroit où brûlait cette nuit-là la veilleuse. Le père Jacques, qui était en chaussons, il laissait à l'ordinaire ses sabots dans le vestibule, entra dans la chambre jaune avec son bout d'allumette et nous distinguâmes vaguement, mal éclairés par la petite flamme mourante, des objets renversés sur le carreau, un lit dans le coin, et en face de nous, à gauche, le reflet d'une glace pendue au mur près du lit. Ce fut rapide. Rouletabille dit « Bon, c'est assez, vous pouvez ouvrir les volets. » « Surtout, n'avancez pas !» pria le père Jacques. « Vous pourriez faire des marques avec vos souliers, il faut rien déranger. C'est une idée du juge, une idée comme ça, bien que son affaire soit déjà faite. » Et il poussa les volets. Le jour livide du dehors entra, éclairant un désordre sinistre entre des murs de safran. Le plancher, car si le vestibule et le barboire étaient carrelés, la chambre jaune était planchelée. D'une natte jaune d'un seul morceau milieu, la table de nuit et deux chaises étaient renversées. Elle n'empêchait point de voir sur la natte une large tache de sang qui provenait, nous dit le père Jacques, de la blessure au front de mademoiselle Sangerson. En outre, des gouttelettes de sang étaient répandues un peu partout et suivait en quelque sorte la trace très visible des pas, des larges pas noirs de l'assassin. Tout faisait présumer que ces gouttes de sang venaient de la blessure de l'homme qui avait un moment imprimé sa main rouge sur le mur. Il y avait d'autres traces de cette main sur le mur, mais beaucoup moins distinctes. C'est bien là la trace d'une rude main d'homme ensanglanté. Je ne pus m'empêcher de m'écrier « Mais voyez, voyez ce sang sur le mur. L'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité et croyait certainement tenir une porte. Il croyait la pousser, c'est pourquoi il a fortement appuyé, laissant sur le papier jaune un dessin terriblement accusateur, car je ne sache point qu'il y ait beaucoup de mains au monde de cette sorte-là. Elle est grande et forte et les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres. Quant au pouce, il manque. Nous n'avons que la marque de la paume. Et si nous suivons la trace de cette main, continuai-je, nous la voyons qui, après être appuyée au mur, le tâte, cherche la porte, la trouve, cherche la serrure. Sans doute, interrompit Rouletabille en ricanant, mais il n'y a pas de sang à la serrure ni au verrou. Non, qu'est-ce que cela prouve? Répliquai-je avec un bon sens dont j'étais fier. Il aura ouvert serrure et verrou de la main gauche, qui est tout naturel puisque la main droite est blessée. Et il n'y a rien ouvert du tout, s'exclama encore le père Jacques. Nous ne sommes pas fous, peut-être, et si nous étions quatre quand nous avons fait sauter la porte. Je repris. Mais quelle drôle de main! Mais regardez-moi cette drôle de main! C'est une main fort naturelle, répliqua Rouletabille, dont le dessin était déformé par le glissement sur le mur. L'homme a essuyé sa main blessée sur le mur. Cet homme doit mesurer 1,80 m. À quoi voyez-vous cela? À la hauteur de la main sur le mur. Mon ami s'occupa ensuite de la trace de la balle dans le mur. Cette trace était un trou rond. La balle, dit Rouletabille, est arrivée de face, ni d'en haut, par conséquent, ni d'en bas. Et il nous fit observer encore qu'elle était de quelques centimètres plus bas sur le mur que le stigmate laissé par la main. Rouletabille, retournant à la porte, avait le nez maintenant sur la serrure et sur le verrou. Il constata qu'on avait bien fait sauter la porte du dehors, serrure et verrou étant encore sur cette porte défoncée, l'une fermée, l'autre poussée, et sur le mur, les deux gâches étant quasiment arrachées, pendantes, retenues encore par une vis. Le jeune rédacteur de l'époque les considéra avec attention, reprit la porte, la regarda des deux côtés, s'assura qu'il n'y avait aucune possibilité de fermeture ou d'ouverture du verrou de l'extérieur, et s'assura qu'on avait retrouvé la clé dans la serrure à l'intérieur. Il s'assura encore qu'une fois la clé dans la serrure à l'intérieur, on ne pouvait ouvrir cette serrure de l'intérieur avec une autre clé. Enfin, ayant constaté qu'il n'y avait à cette porte aucune fermeture automatique, bref, qu'elle était la plus naturelle de toutes les portes munies d'une serrure et d'un verrou, très solide qui était resté fermé, il laissa tomber ces mots. Ah, ça va mieux. Puis, s'asseyant par terre, il se déchaussa hâtivement. Et sur ses chaussettes, il s'avança dans la chambre. La première chose qu'il fit fut de se pencher sur les meubles renversés et de les examiner avec un soin extrême. Nous le regardions en silence. Le père Jacques lui disait, de plus en plus ironique, oh, oh mon petit, vous vous donnez bien du mal. Mais Rouletabille redressa la tête. Vous avez dit la pure vérité, père Jacques. Votre maîtresse n'avait pas ce soir-là ses cheveux en bandeau. C'est moi qui ai une vieille bête de croire cela. Et souple comme un serpent, il se glissa sous le lit. Et le père Jacques reprit. Eh dire, monsieur, eh dire que l'assassin était caché là-dessous. Il y était quand je suis entré à 10 heures pour fermer les volets et allumer la veilleuse, puisque ni monsieur Stangerson, ni mademoiselle Mathilde, ni moi n'avons plus quitté le laboratoire jusqu'au moment du crime. On entendait la voix de Rouletabille sous le lit. À quelle heure, monsieur Jacques? Monsieur et mademoiselle Stangerson sont-ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter? 6 heures. La voix de Rouletabille continuait. Oui, oh, il est venu là-dessous, c'est certain. Dirait-ce qu'il y a que là qui pouvait se cacher. Quand vous êtes entrés tous les quatre, vous avez regardé sous le lit. Bon, tout de suite, nous avons même entièrement bousculé le lit avant de le remettre à sa place. Et entre les matelas, Il y avait un lit qu'un matelas sur lequel on a posé Mademoiselle Mathilde. Et le concierge, M. Stangerson, ont transporté ce matelas immédiatement dans le laboratoire. Sous le matelas, il n'y avait que le sommier métallique qui ne saurait dissimuler rien, ni personne. Enfin, monsieur, songez que nous étions quatre et que rien ne pouvait nous échapper. La chambre étant si petite, dégarnie de meubles, tout est enfermé derrière nous dans le pavillon. J'osais une hypothèse. Il est peut-être sorti avec le matelas. Dans le matelas, peut-être. Tout est possible devant un pareil mystère. Dans leur trouble, M. Stangerson et le concierge ne se seront pas aperçus qu'ils transportaient double poids. Et puis, si le concierge est complice... Bon, je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut, mais voilà qui expliquerait bien des choses. Et particulièrement le fait que le laboratoire et le vestibule sont restés vierges des traces de pas qui se trouvent dans la chambre. Quand on a transporté mademoiselle du laboratoire au château, le matelas, arrêté un instant près de la fenêtre, aurait pu permettre à l'homme de se sauver. Bon, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Balança Rouletabille en riant délibérément sous le lit. J'étais un peu vexé. Vraiment, on ne sait plus, tout paraît possible. Le père Jacques dit, c'est une idée qu'a eu le juge d'instruction, monsieur, et il a fait examiner sérieusement le matelas. Il a été obligé de rire de son idée, monsieur, comme votre ami rit en ce moment, car ça n'était bien sûr pas un matelas à double fond. Et puis quoi? S'il y avait eu un homme dans le matelas, on l'aurait vu. Je dus rire moi-même, et en effet, j'eus la preuve depuis que j'avais dit quelque chose d'absurde. Mais où commençait, où finissait l'absurde dans une affaire pareille? Mon ami seul était capable de se le dire. Et encore. Dites donc, s'écria le reporter, toujours sous le lit, elle a été bien remuée, cette carpette-là. Ben, par nous, monsieur, expliqua le père Jacques. Quand nous n'avons pas trouvé l'assassin, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas un trou dans le plancher. Non, il n'y en a pas, répondit Rouletabille. Avez-vous une cave? Non, il n'y a pas de cave. Mais cela n'a pas arrêté nos recherches et ça n'a pas empêché monsieur le juge d'instruction et surtout son greffier d'étudier le plancher planche à planche comme s'il avait eu une cave dessous. Le reporter alors réapparut. Ses yeux brillaient, ses narines palpitaient. On eût dit un jeune animal au retour d'un heureux affût. Il resta à quatre pattes. En vérité, je ne pouvais mieux le comparer dans ma pensée qu'à une admirable bête de chasse sur la piste de quelque surprenant gibier. Et il flaira les pas de l'homme qu'il s'était juré de rapporter à son maître, monsieur le directeur de l'époque, car il ne faut pas oublier que notre Joseph Rouletabille était journaliste. Ainsi, à quatre pattes, il s'enfuit aux quatre coins de la pièce, reniflant tout, faisant le tour de tout ce que nous voyions, ce qui était peu de chose, et de tout ce que nous ne voyions pas et qui était, paraît-il, immense. La table toilette était une simple tablette sur quatre pieds. Impossible de la transformer en une cachette passagère. Pas une armoire. Mademoiselle Stangerson avait sa garde-robe au château. Le nez, les mains de Rouletabille montaient le long des murs, qui étaient partout de briques épaisses. Quand il eut fini avec les murs et passé ses doigts agiles sur toute la surface du papier jaune, atteignant ainsi le plafond auquel il put toucher en montant sur une chaise qu'il avait placée sur la table toilette et en faisant glisser autour de la pièce cet ingénieux escabeau. Quand il eut fini avec le plafond, où il examina soigneusement la trace de l'autre balle, il s'approcha de la fenêtre, et ce fut encore le tour des barreaux et celui des volets, tous bien solides et intacts. Enfin, il poussa un ouf de satisfaction et déclara que maintenant, il était tranquille. « Eh bien, croyez-vous qu'elle était enfermée, la pauvre chère demoiselle, quand on nous l'assassinait, quand elle nous appelait à son secours ?» gémit le père Jacques. « Oui, fit le jeune reporter en s'essuyant le front, la chambre jaune était, ma foi, fermée comme un coffre-fort. Ben, de fait, observai-je, voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse, même dans le domaine de l'imagination. Dans le double assassinat de la rue Morgue, Edgar Poe n'a rien inventé de semblable. Le lieu du crime était assez fermé pour ne pas laisser échapper un homme, mais il avait encore cette fenêtre par laquelle pouvait se glisser l'auteur des assassinats, qui était un singe. Mais ici, ne saurait être question d'aucune ouverture d'aucune sorte. La porte close et les volets fermés comme ils l'étaient, et la fenêtre fermée comme elle l'était, une mouche ne pouvait entrer ni sortir. En vérité, acquiesça Rouletabille, qui s'épongeait toujours le front, semblant suer moins de son récent effort corporel que de l'agitation de ses pensées. En vérité, c'est un très grand et très beau et très curieux mystère. La bête du bon Dieu, bougonna le père Jacques, la bête du bon Dieu elle-même, si elle avait commis le crime, n'aurait pas pu s'échapper. Écoutez, l'entendez-vous? Silence. Le père Jacques nous faisait signe de nous taire, et le bras tendu vers le mur, vers la prochaine forêt, écoutait quelque chose que nous n'entendions point. « Elle est partie, » finit-il par dire. « Il faudrait que je la tue, elle est trop sinistre, cette bête-là. Mais c'est la bête du bon Dieu. Elle va prier toutes les nuits sur la tombe de Sainte-Geneviève, et personne n'ose y toucher, de peur que la mère à genoux jette un mauvais sort. Mais comment est-elle grosse, la bête du bon Dieu? Quasiment comme un gros chien brassé. C'est un monstre que je vous dis. Oh, je me suis demandé plus d'une fois si ça n'était pas elle qui avait pris de ses griffes notre pauvre demoiselle à la gorge. Mais la bête du bon Dieu ne porte pas des godillots. Elle tire pas des coups de revolver, elle a pas une main pareille, s'exclama le père Jacques, en nous montrant encore la main rouge sur le mur. Et puis on l'aurait vue aussi bien qu'un homme, et elle aurait été enfermée dans la chambre, et dans le pavillon, aussi bien qu'un homme. Évidemment, fis-je, de loin, avant d'avoir vu la chambre jaune, je m'étais moi aussi demandé si le chat de la mère à genoux... « Ah, vous aussi !» s'écria Rouletabille. Et vous ?» demandai-je. « Oh non, pas une minute. Depuis que j'ai lu l'article du matin, je sais qu'il ne s'agit pas d'une bête. Maintenant, je jure qu'il s'est passé là une tragédie effroyable. Mais vous ne parlez pas du béret retrouvé ni du mouchoir, père Jacques. » Le magistrat les a pris, bien entendu, fit l'autre avec hésitation. Le reporter lui dit, très grave, je n'ai vu, moi, ni le mouchoir, ni le béret, mais je peux cependant vous dire comment ils sont faits. Vous êtes bien malin, Et le père Jacques, tout ça, embarrassé. Et le mouchoir est un gros mouchoir bleu à raies rouges, et le béret est un vieux béret basque, comme celui-là, ajouta Rouletabille, en montrant la coiffure de l'homme. C'est pourtant vrai, mais vous êtes sorcier. Et le père Jacques essaya de rire, mais n'y parvint pas. Mais comment que vous savez que le mouchoir est bleu à raies rouges? Parce que s'il n'avait pas été bleu à raies rouges, on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout. Sans plus s'occuper du père Jacques, mon ami prit dans sa poche un morceau de papier blanc, ouvrit une paire de ciseaux, se pencha sur les traces de pas, appliqua son papier sur l'une des traces et commença à découper. Il eut ainsi une semelle de papier d'un contour très net et me la donna en me priant de ne pas la perdre. Il se retourna ensuite vers la fenêtre et, montrant au père Jacques Frédéric Larsan, qui n'avait pas quitté les bords de l'étang, il s'inquiéta de savoir si le policier n'était point venu lui aussi travailler dans la chambre jaune. « Non !» répondit M. Robert Darzac, qui, depuis que Rouletabille lui avait passé le petit bout de papier roussi, n'avait pas prononcé un mot. Il prétend qu'il n'a point besoin de voir la chambre jaune, que l'assassin est sorti de la chambre jaune d'une façon très naturelle et qu'il s'en expliquera ce soir. En entendant M. Robert Darzac parler ainsi, Rouletabille, oh, chose extraordinaire, pâlit. Frédéric Larsan posséderait-il la vérité que je ne fais que pressentir, murmura-t-il. Frédéric Larsan est très fort, et je l'admire. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire mieux qu'une œuvre de policier, mieux que ce qu'enseigne l'expérience. Il s'agit d'être logique, mais logique, entendez-moi bien, comme le bon Dieu a été logique quand il a dit « 2 et 2 égale 4 », il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Et le reporter se précipita dehors, éperdu à cette idée que le grand, le fameux Fred, pouvait apporter avant lui la solution du problème de la chambre jaune. Je parvins à le rejoindre sur le seuil du pavillon. « Allons, lui dis-je, calmez-vous. Vous n'êtes donc pas content ?»« Oui, m'avoua-t-il avec un grand soupir. Oh, je suis très content. J'ai découvert bien des choses. De l'ordre moral ou de l'ordre matériel ?»« Oh, quelques-unes de l'ordre moral et une de l'ordre matériel. » Tenez, ceci, par exemple. Et rapidement, il sortit de la poche de son gilet une feuille de papier qu'il avait dû y serrer pendant son expédition sous le lit et dans le pli de laquelle il avait déposé un cheveu blond de femme. Chapitre 8. Le juge d'instruction interroge Mademoiselle Stangerson. 5 minutes plus tard, Joseph Rouletabille se penchait sur les empreintes de pas découvertes dans le parc, sous la fenêtre même du vestibule, quand un homme, qui devait être un serviteur du château, vint à nous à grandes enjambées et cria à M. Robert Darzac, qui descendait du pavillon, « Vous savez, M. Robert, que le juge d'instruction est en train d'interroger mademoiselle. » M. Robert Darzac nous jeta aussitôt une vague excuse, se prit à courir dans la direction du château. L'homme courut derrière lui. « Si le cadavre parle, fis-je, cela va devenir intéressant. »« Il faut savoir, dit mon ami, allons au château. » Et il m'entraîna. Mais au château, un gendarme placé dans le vestibule nous interdit l'accès de l'escalier du premier étage. Nous dûmes attendre. Pendant ce temps-là, voici ce qui se passait dans la chambre de la victime. Le médecin de la famille, trouvant que Mlle Stangerson allait beaucoup mieux, mais craignant une rechute fatale qui ne permettrait plus de l'interroger, avait cru de son devoir d'avertir le juge d'instruction, et celui-ci avait résolu de procéder immédiatement à un bref interrogatoire. À cet interrogatoire assistèrent M. de Marquet, le greffier, M. Stangerson et le médecin. Je me suis procuré plus tard, au moment du procès, le texte de cet interrogatoire. Le voici dans toute sa sécheresse juridique. Demande. Sans trop vous fatiguer, êtes-vous capable, mademoiselle, de nous donner quelques détails nécessaires sur l'affreux attentat dont vous avez été victime? Réponse. Je me sens beaucoup mieux, monsieur, et je vais vous dire ce que je sais. Quand j'ai pénétré dans ma chambre, je ne me suis aperçu de rien d'anormal. Demande. Pardon, mademoiselle, si vous me le permettez, je vais vous poser des questions et vous y répondrez. Cela vous fatiguera moins qu'un long récit. Réponse. Faites, monsieur. Quel fut ce jour-là l'emploi de votre journée? Je le désirais aussi précis, aussi méticuleux que possible. Je voudrais, mademoiselle, suivre tous vos gestes ce jour-là, si ce n'est point trop vous demander. Je me suis levé tard, à 10 heures, car mon père et moi nous étions rentrés tard dans la nuit, ayant assisté au dîner et à la réception offerte par le président de la République en l'honneur des délégués de l'Académie des sciences de Philadelphie. Quand je suis sorti de ma chambre à 10h30, mon père était déjà au travail dans le laboratoire. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi. Nous avons fait une promenade d'une demi-heure dans le parc. Nous avons déjeuné au château. Une demi-heure de promenade jusqu'à 1h30, comme tous les jours. Puis mon père et moi, nous retournons au laboratoire. Là, nous trouvons ma femme de chambre qui vient de faire ma chambre. J'entre dans la chambre jaune pour donner quelques ordres sans importance à cette domestique qui quitte le pavillon aussitôt et je me remets au travail avec mon père. À 5 heures, nous quittons le pavillon pour une nouvelle promenade et le thé. Demande. Au moment de sortir à 5 heures, êtes-vous entré dans votre chambre? Non, monsieur. C'est mon père qui est entré dans ma chambre pour y chercher, sur ma prière, mon chapeau. Et il n'a rien vu de suspect? Monsieur Stangerson. Oh non, évidemment, non, monsieur. Demande. Du reste, il est à peu près sûr que l'assassin n'était pas encore sous le lit à ce moment-là. Quand vous êtes parti, la porte de la chambre n'avait pas été fermée à clé? Non, nous n'avions aucune raison pour cela. Vous avez été combien de temps parti du pavillon à ce moment-là, monsieur Stangerson et vous? Une heure environ. C'est pendant cette heure-là, sans doute, que l'assassin s'est introduit dans le pavillon. Mais comment? On ne le sait pas. On trouve bien dans le parc des traces de pas qui s'en vont de la fenêtre de vestibule. On n'en trouve point qui y viennent. Aviez-vous remarqué que la fenêtre du vestibule fut ouverte quand vous êtes sorti avec votre père? Non, je ne m'en souviens pas. Elle était fermée. Et quand vous êtes rentré? Je n'ai pas fait attention. Monsieur Stangerson. Ah, elle était encore fermée. Oh, je m'en souviens très bien, car en rentrant, j'ai dit tout haut. Vraiment, oh, pendant notre absence, le père Jacques aurait pu ouvrir. Demande. Étrange, étrange. Rappelez-vous, monsieur Stangerson, que le père Jacques, en votre absence, et avant de sortir, l'avait ouverte. Vous êtes donc rentré à 6 heures dans le laboratoire et vous vous êtes remis au travail? Oui, monsieur. Et vous n'avez plus quitté le laboratoire depuis cette heure-là jusqu'au moment où vous êtes entré dans votre chambre? Monsieur Stangerson. Non, ni ma fille ni moi, monsieur. Nous avions un travail tellement pressé que nous ne perdions pas une minute. C'est à ce point que nous négligions toute autre chose. Demande. Vous avez dîné dans le laboratoire? Oui, pour la même raison. Avez-vous coutume de dîner dans le laboratoire? Nous y dînons rarement. L'assassin ne pouvait pas savoir ce que vous dîneriez ce soir-là dans le laboratoire. Monsieur Stangerson. Mon Dieu, monsieur, je ne pense pas. C'est dans le temps que nous revenions vers 6 heures au pavillon que je pris cette résolution de dîner dans le laboratoire, ma fille et moi. À ce moment, je fus abordé par mon garde qui me retint un instant pour me demander de l'accompagner dans une tournée urgente du côté des bois dont j'avais décidé la coupe. Je ne le pouvais point et remis au lendemain cette besogne et je priai alors le garde, puisqu'il passait par le château, d'avertir le maître d'hôtel que nous dînerions dans le laboratoire. Le garde me quitta, allant faire ma commission, et je rejoignis ma fille, à laquelle j'avais remis la clé du pavillon et qu'il avait laissée sur la porte à l'extérieur. Ma fille était déjà au travail. Demande. À quelle heure, mademoiselle, avez-vous pénétré dans votre chambre pendant que votre père continuait à travailler? À minuit. Le père Jacques était entré dans le courant de la soirée dans la chambre jaune pour fermer les volets et allumer la veilleuse comme chaque soir. Il n'a rien remarqué de suspect. Il nous l'aurait dit. Le père Jacques est un brave homme qui m'aime beaucoup. Vous affirmez, monsieur Stangerson, que le père Jacques ensuite n'a pas quitté le laboratoire? Qu'il est resté tout le temps avec vous? Oh, j'en suis sûr, je n'ai aucun soupçon de ce côté. Mademoiselle, quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez immédiatement fermé votre porte-à-clé au verrou. Voilà bien des précautions, sachant que votre père et votre serviteur sont là. Vous craigniez donc quelque chose. Mon père n'allait pas tarder à rentrer au château et le père Jacques allait se coucher. Et puis, en effet, je craignais quelque chose. Vous craigniez si bien quelque chose que vous avez emprunté le revolver du père Jacques sans le lui dire. C'est vrai, je ne voulais effrayer personne, d'autant plus que mes craintes pouvaient être tout à fait puériles. Et que craigniez-vous donc? Je ne saurais au juste vous le dire. Depuis plusieurs nuits, il me semblait entendre dans le parc et hors du parc, autour du pavillon, des bruits insolites, quelquefois des pas, des craquements de branches. La nuit qui a précédé l'attentat, la nuit où je ne me suis pas couché avant 3 heures du matin, à notre retour de l'Élysée, je suis resté un instant à ma fenêtre. J'ai bien cru voir des ombres. Combien d'ombres? Oh, 2 ombres qui tournaient autour de l'étang. Puis la lune s'est cachée, je n'ai plus rien vu. À cette époque de la saison, tous les ans, j'ai déjà réintégré mon appartement du château, où je reprends mes habitudes d'hiver. Mais cette année, je m'étais dit que je ne quitterais le pavillon que lorsque mon père aurait terminé, pour l'Académie des sciences, le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière, Je ne voulais pas que cette œuvre considérable, qui allait être achevée dans quelques jours, fût troublée par un changement quelconque dans nos habitudes imprévues immédiates. Vous comprendrez que je n'ai point voulu parler à mon père de mes craintes enfantines et que je les ai tues au père Jacques, qui n'aurait pu tenir sa langue. Quoi qu'il en soit, comme je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de sa table de nuit, je profitai d'un moment où le bonhomme s'absenta dans la journée pour monter rapidement dans son grenier et emporter son arme que je glissai dans le tiroir de ma table de nuit à moi. Vous ne vous connaissez pas d'ennemis? Aucun. Vous comprendrez, mademoiselle, que ces précautions exceptionnelles sont faites pour surprendre. Monsieur Stangerson, évidemment, mon enfant, voilà des précautions bien surprenantes. Non, je vous dis que depuis 2 nuits, je n'étais pas tranquille, mais pas tranquille du tout. Mais tu aurais dû me parler de cela. Tu es impardonnable, nous aurions évité un malheur. La demande. La porte de la chambre jaune fermée, mademoiselle. Vous vous couchez. Oh oui, et très fatiguée, je dors tout de suite. La veilleuse était-elle restée allumée? Oui, mais elle répand une très très faible clarté. Alors, mademoiselle, dites ce qui est arrivé. Je ne sais s'il y avait longtemps que je dormais, mais soudain je me réveille. Je poussais un grand cri. Monsieur Stangerson, oh oui, un cri terrible, à l'assassin, oh je l'ai encore dans les oreilles. Vous poussez un grand cri. Oui, un homme était dans ma chambre, il se précipitait sur moi, me mettait la main à la gorge, essayait de m'étrangler. J'ai tout fait déjà. Et tout à coup, ma main, dans le tiroir entrouvert de ma table de nuit, parvint à saisir le revolver que j'y avais déposé et qui était prêt à tirer. À ce moment, l'homme me fit rouler à bas de mon lit et brandit sur ma tête une espèce de masse. Mais j'avais tiré, et aussitôt je me sentis frappé par un grand coup, un coup terrible à la tête. Tout ceci, oh, monsieur le juge, fut plus rapide que je ne pourrais dire, et je ne sais plus rien. Plus rien. Vous n'avez pas une idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre? Aucune idée. Je ne sais plus rien. On ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte. Cet homme était-il grand ou petit? Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable. Vous ne pouvez nous donner aucune indication. Monsieur, je ne sais plus rien. Un homme s'est rué sur moi. J'ai tiré sur lui, je ne sais plus rien. Ici se termine l'interrogatoire de mademoiselle Stangerson. Joseph Rouletabille attendit patiemment M. Robert Darzac. Celui-ci ne tarda pas à apparaître. Dans une pièce voisine de la chambre de mademoiselle Stangerson, il avait écouté l'interrogatoire et venait le rapporter à notre ami avec une grande exactitude, une grande mémoire et une docilité qui me surprit encore. Grâce aux notes hâtives qu'il avait prises au crayon, il put reproduire presque textuellement les demandes et les réponses. En vérité, M. Darzac avait l'air d'être le secrétaire de mon jeune ami et agissait en toute comme quelqu'un qui n'a rien à lui refuser, mais encore quelqu'un qui aurait travaillé pour lui. Le fait de la fenêtre fermée frappa beaucoup le reporter comme il avait frappé le juge d'instruction. En outre, Rouletabille demanda à M. Darzac de lui répéter encore l'emploi du temps de M. et Mlle Stangerson le jour du drame, telle que Mlle Stangerson et M. Stangerson l'avaient établie devant le juge. Les circonstances du dîner dans le laboratoire sembla l'intéresser au plus haut point, et il se fit redire deux fois, pour en être plus sûr, que seul le garde savait que le professeur et sa fille dînaient dans le laboratoire, et de quelle sorte le garde l'avait su. Quand M. Darzac se fut tu, je dis « Voilà un interrogatoire qui ne fait pas avancer beaucoup le problème. » « Il le recule, » obtempéra M. Darzac. « Non, il l'éclaire, » fit pensif Rouletabille. Chapitre 9. Reporter et policier. Nous retournâmes tous trois du côté du pavillon. À une centaine de mètres du bâtiment, le reporter nous arrêta et nous montrant un petit bosquet sur notre droite, il nous dit « Mais voilà d'où est parti l'assassin pour entrer dans le pavillon. » Comme il y avait d'autres bosquets de cette sorte entre les grands chênes, je demandai pourquoi l'assassin avait choisi celui-ci plutôt que les autres. Rouletabille me répondit en me désignant le sentier qui passait tout près de ce bosquet et qui conduisait à la porte du pavillon. « Mais ce sentier est garni de gravier, comme vous voyez, » dit-il. Il faut que l'homme ait passé par là pour aller au pavillon, puisqu'on ne trouve pas la trace de ses pas du voyage aller sur la terre molle. Cet homme n'a point d'aile, il a marché, mais il a marché sur le gravier qui a roulé sous sa chaussure sans en conserver l'empreinte. Ce gravier, en effet, a été roulé par beaucoup d'autres pieds, puisque le sentier est le plus direct qui aille du pavillon au château. Quant au bosquet, formé de ces sortes de plantes qui ne meurent point pendant la mauvaise saison, laurier et fusain, il a fourni à l'assassin un abri suffisant en attendant que le moment fût venu pour celui-ci de se diriger vers le pavillon. Et c'est caché dans ce bosquet que l'homme a vu sortir M. et Mlle Stangerson, puis le père Jacques. On a répandu du gravier jusqu'à la fenêtre, presque du vestibule. Une empreinte des pas de l'homme parallèle au mur, empreinte que nous remarquions tout à l'heure et que j'ai déjà vue, prouve qu'il n'a eu à faire qu'une enjambée pour se trouver en face de la fenêtre du vestibule, laissée ouverte par le père Jacques. L'homme se hissa alors sur les poignets et pénétra dans le vestibule. Après tout, c'est bien possible, fis-je. Après tout quoi ? S'écria Rouletabille, soudain pris d'une colère que j'avais bien innocemment déchaînée. Mais pourquoi dites-vous après tout, c'est bien possible ? Oh, je le suppliais de ne point se fâcher, mais il était déjà beaucoup trop pour m'écouter. Et il déclara qu'il admirait le doute prudent avec lequel certaines gens, moi, aborder de loin les problèmes les plus simples, ne se risquer jamais à dire « ceci est ou ceci n'est pas », de telle sorte que leur intelligence aboutissait tout juste au même résultat qui aurait été obtenu si la nature avait oublié de garnir leur boîte crânienne d'un peu de matière grise. Comme je paraissais vexé, mon jeune ami me prit par le bras et m'accorda qu'il n'avait point dit cela pour moi, attendu qu'il m'avait en particulière estime. « Mais enfin, reprit-il, il est quelquefois criminel de ne point, quand on le peut, raisonner à coup sûr. Si je ne raisonne point comme je le fais avec ce gravier, il me faudra raisonner avec un ballon. Mon cher, la science de l'aérostation dirigeable n'est point encore assez développée pour que je puisse faire entrer dans le jeu de mes cogitations l'assassin qui tombe du ciel. Ne dites donc point qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement. Nous savons maintenant comment l'homme est entré par la fenêtre, et nous savons aussi à quel moment il est entré. Il y est entré pendant la promenade de 5 heures. le fait de la présence de la femme de chambre qui vient de faire la chambre jaune dans le laboratoire au moment du retour du professeur et de sa fille à 1h30 nous permet d'affirmer qu'à 1h30, l'assassin n'était pas encore dans la chambre sous le lit, à moins qu'il y eût complicité de la femme de chambre. Qu'en dites-vous, monsieur Robert Darzac? Monsieur Darzac secoua la tête, déclara qu'il était sûr de la fidélité de la femme de chambre de mademoiselle Stangerson et que c'était une fort honnête et fort dévouée domestique. Et puis, à 5h, M. Stangerson est entré dans la chambre pour chercher le chapeau de sa fille, ajouta-t-il. Ben, il y a encore cela, fit Rouletabille. L'homme est donc entré dans le moment que vous dites par cette fenêtre, fis-je. Je l'admets. Mais pourquoi a-t-il refermé la fenêtre, ce qui devait nécessairement attirer l'attention de ceux qui l'avaient ouverte? Il se peut que la fenêtre n'ait point été refermée tout de suite, me répondit le jeune reporter. Mais s'il a refermé la fenêtre, il l'a refermée à cause du coude que fait le sentier garni de gravier à 25 mètres du pavillon, et à cause des trois chênes qui s'élèvent à cet endroit. Que voulez-vous dire? Demanda M. Robert Darzac, qui nous avait suivis et qui écoutait Rouletabille avec une attention presque haletante. Bon, je vous l'expliquerai plus tard, monsieur, quand j'en jugerai le moment venu, mais je ne crois pas avoir prononcé de parole plus importante sur cette affaire, si mon hypothèse se justifie. Et quelle est votre hypothèse? Oh, vous ne la saurez jamais si elle ne se révèle point être la vérité. C'est une hypothèse beaucoup trop grave, voyez-vous, pour que je la livre tant qu'elle ne sera qu'hypothèse. Avez-vous au moins quelque idée de l'assassin? Non, monsieur, je ne sais pas qui est l'assassin, mais ne craignez rien, monsieur Robert Darzac. Je le saurai. Je dus constater que M. Robert Darzac était très ému. Je soupçonnais que l'affirmation de Rouletabille n'était point pour lui plaire. Alors, pourquoi, s'il craignait réellement qu'on découvrît l'assassin, je questionnais ici ma propre pensée, pourquoi aidait-il le reporter à le retrouver? Mon jeune ami sembla avoir reçu la même impression que moi, et il dit brutalement « Mais cela ne vous déplaît pas, monsieur Robert Darzac, que je découvre l'assassin. Oh, je voudrais le tuer de ma main !» s'écria le fiancé de mademoiselle Stangerson, avec un élan qui me stupéfia. « Non, je vous crois, » fit gravement Rouletabille, « mais vous n'avez pas répondu à ma question. » Nous passions près du bosquet dont le jeune reporter nous avait parlé à l'instant. J'y entrais et lui montrais les traces évidentes du passage d'un homme qui s'était caché là. Rouletabille, une fois de plus, avait raison. « Mais oui, fit-il. Nous avons affaire à un individu en chair et en os qui ne dispose pas d'autres moyens que les nôtres. Il faudra bien que tout s'arrange. » Ce disant, il me demanda la semelle de papier qu'il m'avait confiée et l'appliqua sur une empreinte très nette derrière le bosquet. Puis il se releva en disant « Parbleu !» Je croyais qu'il allait maintenant suivre la piste les pas de la fuite de l'assassin depuis la fenêtre du vestibule, mais il nous entraîna assez loin, vers la gauche, en nous déclarant que c'était inutile de se mettre le nez sur cette fange et qu'il était sûr maintenant de tout le chemin de la fuite de l'assassin. Il est allé jusqu'au bout du mur, à 50 mètres de là, et puis il a sauté la haie et le fossé. Tenez, juste en face, ce petit sentier qui conduit à l'étang. C'est le chemin le plus rapide pour sortir de la propriété, aller à l'étang. Mais comment savez-vous qu'il est allé à l'étang? Parce que Frédéric Larsan n'en a pas quitté les bords depuis ce matin. Il doit y avoir là de fort curieux indices. Quelques minutes plus tard, nous étions près de l'étang. C'était une petite nappe d'eau marécageuse entourée de roseaux et sur laquelle flottaient encore quelques pauvres feuilles mortes de nénuphars. Le grand Fred nous vit peut-être venir, mais il est probable que nous l'intéressions peu, car il ne fit guère attention à nous et continua de remuer du bout de sa canne quelque chose que nous ne voyions pas. « Tenez, » dit Rouletabille, « voilà à nouveau les pas de la fuite de l'homme. Ils tournent l'étang ici, reviennent et disparaissent enfin près de l'étang, juste devant ce sentier qui conduit à la grande route d'Épinay. L'homme a continué sa fuite vers Paris. « Mais qui vous le fait croire, interrompis-je, puisqu'il n'y a plus les pas de l'homme sur le sentier ?» Ce qui me le fait croire, mais c'est pas là, c'est pas que j'attendais, s'écria-t-il en désignant l'empreinte très nette d'une chaussure élégante. Voyez ! Et il interpella Frédéric Larsan. Monsieur Fred, cria-t-il, ces pas élégants sur la route sont bien là depuis la découverte du crime. Oui, jeune homme, oui, ils ont été relevés soigneusement, répondit Fred sans lever la tête. Vous voyez, il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent. Et cet homme avait une bicyclette, s'écria le reporter. Ici, après avoir regardé les empreintes de la bicyclette qui suivaient aller et retour les pas élégants, je crus pouvoir intervenir. La bicyclette explique la disparition des pas grossiers de l'assassin, fis-je. L'assassin, aux pas grossiers, est monté à bicyclette. Son complice, l'homme aux pas élégants, était venu l'attendre au bord de l'étang avec la bicyclette. On peut supposer que l'assassin agissait pour le compte de l'homme aux pas élégants. « Non, non !» répliqua Rouletabille avec un étrange sourire. « J'attendais ces pas-là depuis le commencement de l'affaire. Je les ai, oh, je ne vous les abandonne pas. Ce sont les pas de l'assassin. Et les autres pas, les pas grossiers, qu'en faites-vous ? Ce sont encore les pas de l'assassin. Alors, il y en a deux. » « Non, il n'y en a qu'un, et il n'a pas eu de complice. »« très fort !» cria de sa place Frédéric Larsan. « Tenez !» continua le jeune reporter en nous montrant la terre remuée par des talons grossiers. « L'homme s'est assis là et a enlevé les godillots qu'il avait mis pour tromper la justice, et puis, oh, les emportant sans doute avec lui. » Il s'est relevé avec ses pieds à lui et tranquillement a regagné au pas la grande route en tenant sa bicyclette à la main. Il ne pouvait se risquer sur ce très mauvais sentier à courir à bicyclette. Du reste, ce qu'il prouve, c'est la marque légère et hésitante de la bécane sur le sentier, malgré la mollesse du sol. S'il y avait eu un homme sur cette bicyclette, les roues fussent entrées profondément dans le sol. Non, 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 il n'y avait là qu'un seul homme, l'assassin, à pied. Bravo, bravo, fit encore le grand Fred. Et tout à coup, celui-ci vint à nous, se planta devant M. Robert Darzac et lui dit: Si nous avions une bicyclette ici, nous pourrions démontrer la justesse du raisonnement de ce jeune homme, monsieur Robert Darzac. Vous ne savez pas s'il s'en trouve une au château ? Non, répondit monsieur Darzac, il n'y en a pas. J'ai emporté la mienne il y a 4 jours à Paris, la dernière fois que je suis venu au château, avant le crime. C'est dommage, répliqua Fred sur le ton d'une extrême froideur. Et, se retournant vers Rouletabille, « Oh, si cela continue, dit-il, vous verrez que nous aboutirons tous les deux aux mêmes conclusions. Avez-vous une idée, vous, sur la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune ?»« Oui, fit mon ami, une idée. Moi aussi, continua Fred, et ce doit être la même. Il n'y a pas deux façons de raisonner dans cette affaire. J'attends, pour m'expliquer devant le juge, l'arrivée de mon chef. « Oh, le chef de la sûreté va venir. »« Oui, cet après-midi, pour la confrontation dans le laboratoire, devant le juge d'instruction de tous ceux qui ont joué ou pu jouer un rôle dans le drame. »« Oh, cela sera très intéressant. Il est malheureux que vous ne puissiez y assister. »« Bon, j'y assisterai, » affirma Rouletabille. « Vraiment, vous êtes extraordinaire pour votre âge, » répliqua le policier sur un ton non dénué d'une certaine ironie. « Vous feriez un merveilleux policier si vous aviez un peu plus de méthode. Si vous obéissiez moins à votre instinct et au boss de votre front. » C'est une chose que j'ai déjà observée plusieurs fois, monsieur Rouletabille. Vous raisonnez trop. Vous ne vous laissez pas assez conduire par votre observation. Que dites-vous du mouchoir plein de sang et de la main rouge sur le mur ? Vous avez vu, vous, la main rouge sur le mur ? Moi, je n'ai vu que le mouchoir. Dites ? Bon, fit Rouletabille un peu interloqué. L'assassin a été blessé à la main par le revolver de Mademoiselle Stangerson. « Ah, non, observation brutale, instinctive. Prenez garde, vous êtes trop directement logique, monsieur Rouletabille. La logique vous jouera un mauvais tour si vous la brutalisez ainsi. Il y a de nombreuses circonstances dans lesquelles il faut l'aller traiter en douceur, la prendre de loin. Monsieur Rouletabille, vous avez raison quand vous parliez du revolver de Mademoiselle Stangerson. » Il est certain que la victime a tiré, mais vous savez tort quand vous dites qu'elle a blessé l'assassin à la main. Mais je suis sûr, s'écria Rouletabille. Fred, imperturbable, l'interrompit. Défaut d'observation. Défaut d'observation. L'examen du mouchoir, les innombrables petites taches rondes, écarlates, impressions de gouttes, que je retrouve sur la trace des pas au moment même où le pas pose à terre, me prouve que l'assassin n'a pas été blessé. L'assassin, monsieur Rouletabille, a saigné du nez. Le grand frère était sérieux. Je ne pus retenir cependant une exclamation. Le reporter regardait Fred, qui regardait sérieusement le reporter. Et Fred tira aussitôt une conclusion. L'homme qui saignait du nez dans sa main et dans son mouchoir a essuyé sa main sur le mur. La chose est fort importante, ajouta-t-il, car l'assassin n'a pas besoin d'être blessé à la main pour être l'assassin. Rouletabille sembla réfléchir profondément et dit. Il y a quelque chose, monsieur Frédéric Larsan, qui est beaucoup plus grave que le fait de brutaliser la logique, c'est cette disposition d'esprit propre à certains policiers qui leur fait en toute bonne foi plier en douceur cette logique aux nécessités de leur conception. Vous avez déjà votre idée sur l'assassin, monsieur Fred, ne le niez pas. Et il ne faut pas que votre assassin ait été blessé à la main, sans quoi votre idée tomberait d'elle-même. Et vous avez cherché, et vous avez trouvé autre chose. C'est un système bien dangereux, monsieur Fred, bien dangereux, que celui qui consiste à partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver aux preuves dont on a besoin. Cela pourrait vous mener loin. Prenez garde à l'erreur judiciaire, monsieur Fred. Elle vous guette. Et, ricanant un peu, les mains dans les poches, légèrement goguenard, Rouletabille, de ses petits yeux malins, fixa le grand Fred. Frédéric Larsan considéra en silence ce gamin qui prétendait être plus fort que lui. Il haussa les épaules, nous salua et s'en alla à grandes enjambées, frappant la pierre du chemin de sa grande canne. Rouletabille le regardait s'éloigner. Puis le jeune reporter se retourna vers nous, la figure joyeuse et déjà triomphante. « Je le battrai !» nous attend-il. « Je battrai le grand Fred, si fort soit-il. Je les battrai tous. Rouletabille est plus fort que tous. Et le grand Fred, l'illustre, le fameux, l'immense Fred, l'unique Fred, résonne comme une savate. » Comme une savate, mais oui, comme une savate. Et il esquissa un entrechat. Mais il s'arrêta subitement dans sa chorégraphie. Mes yeux allèrent où allaient ses yeux. Ils étaient attachés sur M. Robert Darzac, qui, la face décomposée, regardait sur le sentier la marque de ses pas à côté de la marque du pas élégant. Il n'y avait pas de différence. Nous crûmes qu'il allait défaillir. Ses yeux, agrandis par l'épouvante, nous furent un instant, cependant que sa main droite tiraillait d'un mouvement spasmodique le collier de barbe qui entourait son honnête et douce et désespérée figure. Enfin, il se ressaisit, nous salua, nous dit d'une voix changée qu'il était dans la nécessité de rentrer au château et partit. « Diable !» fit Rouletabille. Le reporter, lui aussi, avait l'air consterné. Il tira de son portefeuille un morceau de papier blanc, comme je le lui avais vu faire précédemment, et découpa avec ses ciseaux les contours de pieds élégants de l'assassin dont le modèle était là, sur la terre. Et puis il transporta cette nouvelle semelle de papier sur les empreintes de la bottine de M. Darzac. L'adaptation était parfaite, et Rouletabille se releva en répétant « Diable !» Je n'osais pas prononcer une parole, tant j'imaginais que ce qui se passait dans ce moment, dans les bosses de Rouletabille, était grave. Il dit « Je crois pourtant que M. Robert Darzac est un honnête homme. » Et il m'entraîna vers l'auberge du donjon, que nous apercevions à 1 kilomètre de là, sur la route à côté d'un petit bouquet d'arbres.